L'actualité des Alpes du Sud avec ITER. ITER réitère-t-il les retards ou non ?
Un projet scientifique, technique et environnemental puisqu'il s'agit de reproduire l'énergie du soleil aux portes des Alpes d'Haute-Provence. Une grosse opération de levage doit se dérouler dans les prochaines heures pour assembler le tokamak, mais des voix discordantes continuent de s'élever, notamment celle de Michel Classens, l'ancien porte-parole du projet ITER. Il dénonce des pièces arrivées de Corée avec des défauts de fabrication et un retard qui va s'accumuler.
Bonnet d'âne pour les Alpes du Sud, véritable passoire énergétique.
C'est ce qui ressort d'une enquête du site seloger.com. Plus de 30% des appartements vendus dans nos départements sont classés en F ou G.
Et puis la facture d'électricité coûtait trop cher, hein. Vous en souvenez, le centre aquatique du Champsaur-Valgonnemar avait dû fermer.
C'était au début de l'année, mais après plusieurs semaines de travail, un nouveau contrat est signé avec un tarif qui augmente, mais qui convient. Et la réouverture est donc prévue pour le 21 mai.
Et c'est la voix des Hautes-Alpes et peut-être la voix de The Voice.
Loudassy Lagapenceès continue son petit bonhomme de chemin dans ce célèbre télécrochet de TF1. Elle est qualifiée pour les demi-finales qui auront lieu samedi. Le maire de Gap, Roger Didier, appelle donc à voter pour elle.
Et puis comme un avant-goût de grande boucle.
Le Tour de France sera de passage dans les Hautes-Alpes en juillet prochain. Et hier, on a signé les conventions avec Christian Prudhomme, le patron. Du côté de la météo, c'est beau et c'est chaud.
Oui, temps bien ensoleillé avec quelques cumulus qui vont se développer sur le relief l'après-midi. Ils seront d'ailleurs un petit peu plus nombreux sur l'Ubaye où quelques gouttes sont possibles. Les températures maximales en hausse de 1 à 2 degrés par rapport à la veille. On ira jusqu'à 23-26 degrés sur nos deux départements. C'est une vaste opération qui est attendue dans les prochains jours, voire les prochaines heures, si tout va bien, au sein d'ITER.
Direction Saint-Paul-et-Durance, à la frontière avec les Alpes d'Haute-Provence, la grosse machine qui est le tokamak et qui permettra de recréer en son sein l'énergie du soleil avec la fusion nucléaire, continue d'être assemblée. On va lever le premier module de vaisseau sous vide. Il y en a 9. L'essai a eu lieu la semaine dernière et probablement aujourd'hui, les équipes devraient l'insérer directement dans la fosse. Ce défi, aussi bien scientifique que technique, se poursuit, mais les voix discordantes continuent de s'élever, notamment celle du lanceur d'alerte, ancien porte-parole du projet ITER, Michel Classens. Selon lui, le calendrier fixé par ITER ne sera pas respecté en raison de défauts de fabrication.
Trois secteurs de la chambre à vide, donc le cœur du réacteur, sont arrivés récemment de Corée, là où ils ont été fabriqués par Hyundai. Ces trois secteurs sont endommagés. Ils présentent des défauts de conformité et donc ils ne peuvent pas être assemblés en l'état. Ils doivent être d'abord réparés et je ne comprends pas que ces pièces, en effet, soient arrivées en l'état en France. Je suspecte que c'est pour respecter le calendrier du Conseil ITER. Malheureusement, donc, ce sont des problèmes qui sont reportés et qui sont importants puisque l'ASN a confirmé dans sa lettre du 25 janvier qu'elle ne donnait pas l'autorisation de descendre les secteurs dans la fosse du tokamak. Difficile à l'heure actuelle d'estimer ce retard, mais selon des sources internes à l'organisation ITER, certaines personnes parlent de 5 à 7 ans de retard au minimum, parce qu'on est encore au début de l'assemblage.
Michel Rivasi, l'eurodéputé écologiste de la circonscription de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, estime aujourd'hui que ce projet ITER est périmé, tout simplement parce que le jour où il pourra enfin fonctionner, ce sera déjà trop tard au niveau des conséquences du réchauffement climatique.
Ça, c'est la grosse question. Évidemment, même si tout allait bien, la commercialisation ne pourrait pas intervenir avant 2050, probablement. Donc, c'est en effet trop tard pour jouer un rôle rapide et décisif dans le réchauffement climatique.
Du côté d'ITER, on réfute ces accusations. Les différents retards seraient dus à la pandémie qui a retardé la fabrication de pièces au Japon, en Corée ou en Chine. Mais on ne parle pas d'années de retard, mais de mois. Quant aux trois pièces qui présenteraient des défauts de fabrication, Robert Arnoux tempère, il est le responsable de la communication ITER.
Ce sont des pièces qui mesurent 18 mètres de haut et qui pèsent à peu près 450 tonnes. À titre de comparaison, un Boeing 747 à pleine charge, ça pèse 350 tonnes. Il est inévitable que par rapport à la pièce idéale telle qu'elle est conçue dans les dessins 3D, on ait des variations de dimension. Ça, c'est tout à fait normal dans les installations industrielles. On a les moyens de comparer compenser, de réusiner certaines surfaces de manière à pouvoir assembler ces pièces.
Robert Arnoux, en janvier, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a mis un point d'arrêt à l'assemblage du tokamak. Elle vous a demandé un complément d'information. Est-ce qu'il va y avoir des incidences?
Si vous voulez, les points d'arrêt, ça fait partie des procédures normales qui jalonnent tous les processus d'autorisation au cours de la vie d'une installation nucléaire. L'ASN avait posé un point d'arrêt de très longue date, non pas pour l'assemblage de ces pièces, mais pour le soudage des deux premiers secteurs. Mais pour le moment, ça ne nous impacte pas en termes de calendrier, puisque on n'a pas encore descendu le premier secteur. Quand on descendra le premier secteur, on aura fait les opérations d'ajustement nécessaires de manière à ce que l'ASN puisse nous autoriser à souder ces deux secteurs. Mais, si vous voulez, le point d'arrêt de l'ASN n'induit pas de retard, puisqu'on est loin d'avoir atteint le moment où on va souder ces secteurs.
Notez que 35 pays travaillent et financent ce projet, dont les 27 membres de l'Union européenne, mais aussi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bernard Bigot, le directeur général d'ITER, s'est mis en retrait de ses fonctions depuis la semaine dernière pour des raisons de santé. L'autorité est donc désormais entre les mains de son adjoint. Un dossier à retrouver sur alpe1.com.
Dans le reste de l'actualité, la Confédération paysanne qui battra le pavé demain à Gap.
Le syndicat agricole annonce une mobilisation à 16h ce jeudi devant la direction départementale des territoires pour soutenir Dominique Truc, cet éleveur. À Montbran, voit sa demande d'indemnisation suite à des dégâts causés par du gibier sur ses cultures passer en commission départementale de la chasse. Un problème récurrent selon la Confédération qui se montre en désaccord avec la gestion faite par la Fédération de la chasse. Nos appartements sont de véritables passoires énergétiques et nos départements ont le bonnet d'âne. C'est ce qui ressort d'une enquête du site seloger.com. Il a passé en revue les annonces immobilières du territoire français. Premier constat, les passoires thermiques sont inégalement réparties en France. Ceux classés F ou G sont en grande majorité dans des départements de montagne. Pour preuve, l'an dernier, 38% des appartements mis en vente sur le site dans le département des Hautes-Alpes étaient des passoires énergétiques. C'est le haut du tableau. Le 04 arrive en troisième position avec 32% des appartements en F ou G. Par comparaison, en Haute-Garonne, la part de ces logements étiquetés F ou G est vendue se situait autour des 3%. Alors plusieurs explications, le climat, l'ancienneté du parc immobilier également. Pourtant, dès l'année prochaine, il sera interdit de louer des biens étiquetés G au DPE et consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an. Puis tous les logements classés G seront touchés dès 2025, une interdiction qui sera ensuite étendue aux habitations classées F en 2028.
Des dons, mais aussi des chauffeurs espérés pour amener des vivres et des médicaments en Ukraine.
La solidarité se poursuit dans les Alpes du Sud. Un quatrième convoi doit partir dans les jours qui viennent depuis Saint-André-les-Alpes avec l'association Guide sans frontières. Pour l'heure, seul un entrepreneur qui participe à ces opérations depuis le début est présent. Des chauffeurs avec fourgons sont donc attendus, des dons financiers également pour payer les frais de transport, notamment l'essence, les péages et puis des vivres, notamment du lait concentré en boîte, du lait en poudre, des barres énergétiques ou encore des aliments lyophilisés. De la nourriture pour animaux est également la bienvenue. Enfin, du matériel médical et des médicaments seront transportés directement en Ukraine. Les coordonnées sont à retrouver sur notre site alpe1.com.
Et le centre aquatique du Champsaur Valgonmar va rouvrir ses portes le 21 mai prochain.
Ça y est, souvenez-vous, il avait dû fermer. C'était début janvier du fait de la flambée des coûts de l'énergie. Ses contrats d'électricité arrivaient à terme. Ainsi, du fait de la conjoncture actuelle, le coût était multiplié par 8. Après plusieurs semaines de travail, c'est donc un nouveau contrat pour les trois prochaines années qui a été signé avec une offre tarifaire stabilisée à hauteur de plus 35% par rapport au contrat précédent. C'est ce qu'explique la communauté de communes. Pour le président Fabrice Borel, c'est un équipement majeur de la vallée. La décision de fermeture temporaire était le plus raisonnable, mais nous avions à cœur de réouvrir le plus rapidement possible. Ce sera donc chose faite le 21 mai. Notez que le centre sera ouvert aux horaires habituels, hors période de vacances scolaires.
C'est la voix des Hautes-Alpes qui pourrait bien devenir la voix de The Voice, hein, le télécrochet de TF1.
Lou Dassy, la Gapençaise, a été qualifiée pour les demi-finales. De quoi émouvoir et ravir le maire de Gap, Roger Didier, qui appelle à voter massivement pour elle samedi. Ce sera lors du direct de TF1 samedi soir. Écoutez la prestation de Lou Dassy, c'était le week-end dernier.
Tu n'as pas le choix. Au fond, tu n'as pas le choix. Et moi, qui suis l'une de ces filles, dis-moi, dis-moi.
La jeune femme a suivi sa scolarité dans la capitale douce avant d'intégrer le conservatoire à rayonnement régional en classe de musique actuelle à Aix-en-Provence. Sa mère est l'entraîneuse des jeunes nageurs du club de Gap. Son papa est un collaborateur de la direction des sports de la mairie gapençaise. Lou Dassy sera donc à retrouver samedi soir en prime time, donc en direct sur The Voice sur TF1.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Avec un avant-goût de Tour de France dans les Hautes-Alpes.
Le peloton de la Grande Boucle passera à nouveau par les routes du département les 13 et 14 juillet prochains. Et son directeur Christian Prudhomme était hier à Gap pour signer les conventions Tour de France avec les élus concernés par cette 109e édition. Fierté immense pour le maire de Briançon, Arnaud Murgia. Émotion de l'édile de Saint-Chaffré, Corinne Chanfray, en passant aussi par la satisfaction du président du département, Jean-Marie Bernard. La plus grande course cycliste au monde permettra une nouvelle fois de développer l'attractivité du territoire et de ses cols de légende. Avec une seule arrivée en 1986, le Granon est entré dans l'histoire du Tour à plusieurs titres. Par sa difficulté, tout d'abord, son altitude ensuite, qui en fait le plus haut sommet du Tour durant 25 ans, jusqu'à ce que le Galibier le détrône en 2011. Mais surtout, comme la dernière journée en jaune du plus grand champion français, c'était Bernard Hinault. Son retour donc en 2022 lors de l'étape 11 depuis Albertville sera un temps fort sportif et logistique pour Christian Prudhomme.
C'est une sorte de mythe le Granon. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment existé, pas existé, voilà. Il revient 36 ans après, ça va être une ascension très très rude sans aucun doute et j'en suis convaincu, une grosse bagarre. Et je sais déjà depuis le mois d'octobre que certains champions ont coché la date du 13 juillet, l'ascension du Granon, au moins autant que celle de l'Alpe d'Huez. Ça c'est sûr et certain parce que ça fait partie du mythe. Et donc gagner au Granon, ça vous installe un champion. Le Granon, c'est aussi un défi de logistique. En vérité, 9 dixièmes du dispositif, il est à Briançon, sur l'esplanade bien nommée Jean-Marie Leblanc, du nom de mon prédécesseur. Donc, nos équipes techniques logistiques, qui sont dans l'itinérance, elles ne sont pas capables de faire tous les jours l'effort qui est demandé ce jour-là. Les coureurs repartent à l'envers, donc ça veut dire qu'on arrive à l'Alpe d'Huez, les coureurs font 200 mètres de plus, 1 km de plus, ils sont tous à l'hôtel. Là, non, il faut redescendre. Donc, il y a une infrastructure, une logistique, une complexité pour les champions aussi, après les étape qui fait qu'on ne peut pas mettre cette étape sans penser à ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. C'est ce qui a fait que, sur les 36 ans d'absence, j'en prends la moitié pour moi, mais pas plus.
Et puis 100 ans après sa première apparition sur le parcours du Tour de France, Briançon déploiera prochainement un maillot jaune géant sur les remparts de la ville qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.